De retour sur les ondes de Radio Panique pour une nouvelle émission des Jeunes Radioactifs animée par Morane. Pour rappel, Jeunes Radioactifs est une émission par et pour les jeunes. Elle permet à ceux et celles qui le souhaitent de mener l'émission sur des sujets qui concernent la jeunesse. Si tu veux nous rejoindre, contacte-nous au 04 402 421 71 30. Aujourd'hui, on va parler du décret inscription en première année du secondaire. Les invités présents sont Éric Brugemann et Chantal Massard d'InforJeune Laeken.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Pour les auditeurs qui ne connaissent pas l'organisation présente, je propose un tour de table pour qu'ils puissent expliquer les grandes missions de leur organisation. Chantal, pouvez-vous nous dire quelques mots sur InforJeune Laeken?
Oui, bien sûr. En fait, InforJeune Laeken existe depuis bientôt presque 50 ans. Mais nous sommes toujours jeunes et nous sommes des généralistes de l'information jeunesse, ce qui veut dire qu'en première ligne, nous devons pouvoir répondre aux questions qui tracassent les jeunes ou qui les intéressent. Ces questions peuvent être des questions qui ont trait à l'enseignement, des questions qui ont trait à la formation, ça peut être des jeunes qui cherchent un job étudiant ou encore des questions qui ont trait aux loisirs ou à la vie affective, etc. Donc voilà, ça c'est de manière générale. Mais il se fait que depuis quelques années, plus de deux tiers des demandes qui nous sont adressées touchent à la scolarité. Et donc, même si nous sommes des généralistes de l'information jeunesse, nous sommes aussi un petit peu des spécialistes du droit scolaire et de l'orientation scolaire. Et c'est à ce titre qu'on est là aujourd'hui pour parler du décret inscription.
Et vous, Éric, quelques mots sur InforJeune Laeken?
Oui, ben donc je vais dire deux mots simplement sur ce que je fais à InforJeune Laeken. Donc j'ai notamment en charge la permanence juridique d'InforJeune. Et donc c'est une permanence juridique qui est essentiellement centrée sur le droit scolaire. Donc comme vient de le dire Chantal, ça recoupe directement l'objectif de cette émission-ci. Puisque la permanence juridique sur le droit scolaire s'intéresse notamment aux questions d'inscription, et donc il va être question ici du décret inscription, des exclusions, de la gratuité, mais aussi de l'orientation et des programmes d'études. Ben voilà, je m'en tiens à ça.
Merci. Maintenant, on va faire une petite pause musicale et on va écouter Éducation nationale de Grand Corps Malade.
Je m'appelle Moussa, j'ai 10 ans, je suis en CM2 à Épinay, ville du 93 où j'ai grandi et où je suis né. Mon école, elle est mignonne, même si les murs sont pas tout neufs. Dans chaque salle, il y a plein de bruit, moi dans ma classe, on est 29. Il n'y a pas beaucoup d'élèves modèles, puis on est un peu dissipés. Je crois que nous sommes ce qu'on appelle des élèves en difficulté. Moi en maths, je suis pas terrible, mais c'est pas pire qu'en dictée. Ce que je préfère, c'est 16h, je retrouve les grands dans mon quartier. Pourtant ma maîtresse, je l'aime bien, elle peut être dure, mais elle est patiente. Et si jamais je comprends rien, elle me réexplique, elle est patiente. Elle a toujours plein d'idées et plein de projets pour les sorties. Mais on n'a que deux quarts par an qui sont prêtés par la mairie. Je crois que mon école, elle est pauvre, on n'a pas de salle informatique. On n'a que la cour et le préau pour faire de la gymnastique. À la télé, j'ai vu que des classes faisaient du golf en EPS. Nous, on n'a que des tapis, des cerceaux et la détresse de nos maîtresses. Alors si tous jouent à l'école, il est temps d'entendre le SOS. Ne laissons pas se creuser le fossé d'un enseignement à deux vitesses. Au milieu des tours, il y a trop de pions dans le jeu d'échecs scolaires. Laissons pas nos rois devenir fous dans des défaites spectaculaires. L'enseignement en France va mal, personne peut nier la vérité. Les zones d'éducation prioritaires ne sont pas des priorités. Les classes sont surchargées, pas comme la paye des profs minés. Et on supprime des effectifs dans des écoles déjà en apnée. Au contraire, faut rajouter des profs et d'autres métiers qui prennent la relève. Dans les quartiers les plus en galère, créer des classes de 15 élèves. Ajouter des postes d'assistants ou d'auxiliaires qui aient d'autres voies, qui connaissent les parents et accompagnent les enfants les plus en retard. L'enseignement en France va mal, l'État ne met pas assez d'argent. Quelques réformes à deux balles pour ne pas voir le plus urgent. Un établissement scolaire sans vrais moyens est impuissant. Comment peut-on faire des économies sur l'avenir de nos enfants ? L'enseignement en France va mal car il rend pas les gens égaux. Les plus fragiles tirent l'alarme mais on étouffe leur écho. L'école publique va mal car elle a la tête sous l'eau. Il n'y a pas d'éducation nationale, il n'y a que des moyens de survie locaux. Alors continuons de dire aux petits frères que l'école est la solution, mais donnons-leur les bons outils pour leur avenir, car attention, la réussite scolaire dans certaines zones pourrait rester un mystère, et l'égalité des chances un concept de ministère. Alors si tout se joue à l'école, il est temps d'entendre le SOS. Ne laissons pas se creuser le fossé d'un enseignement à deux vitesses. Au milieu des tours, il y a trop de pions dans le jeu d'échecs scolaires. Ne laissons pas nos rois devenir fous dans des défaites spectaculaires. Je m'appelle Moussa, j'ai 10 ans, je suis en CM2 à Épinay, ville du 93 où j'ai grandi et où je suis né. C'est pas de ma faute à moi si j'ai moins de chance d'avoir le bac. C'est simplement parce que je vis là que mon avenir est un cul-de-sac.
On vient d'écouter Éducation nationale de Grand Corps Malade. Lançons-nous à présent dans le vif du sujet. Chantal, pouvez-vous nous expliquer les grands objectifs du décret inscription ?
Oui, alors je pense que les grands objectifs du décret inscription sont de deux ordres. Je vais d'abord parler de l'objectif de mixité sociale. Donc pour qu'on le comprenne bien, l'idée c'est qu'il est important qu'on trouve dans toutes les écoles des personnes d'origine sociale différente, pour faire court, des riches et des pauvres. À ça, évidemment, peut s'ajouter une mixité culturelle, voire une mixité scolaire, j'y reviendrai. Mais donc ce concept est très important parce que la situation qu'on connaît sur le terrain est loin d'être une situation où il y a de la mixité sociale. Dans le langage populaire, dans le langage courant d'ailleurs, on entend régulièrement sur Bruxelles parler soit d'écoles poubelles, soit de bonnes écoles ou encore d'écoles réputées. Et donc, tout le monde, quelque part, connaît cette réalité d'un système scolaire dual qui crée beaucoup, beaucoup d'inégalités. Donc, il faut le savoir aussi, les enquêtes PISA ont démontré que la Belgique est un des champions à l'intérieur de l'OCDE des inégalités. Et donc, les compétences que les jeunes acquièrent, eh bien, elles sont fortement corrélées à leur situation socio-économique ou socio-culturelle. En d'autres termes, vous appartenez à une famille classe moyenne ou fort aisée, vos chances de réussite scolaire sont grandes, vous allez mieux apprendre dans l'école que si vous faites partie des classes populaires ou des classes défavorisées. Et donc, la pédagogie a montré, des études pédagogiques ont montré que quand on mixait les publics, eh bien, au lieu d'avoir un nivellement vers le bas, on avait une émulation et un meilleur apprentissage dans ces classes. C'est important puisque je viens de le souligner, on a beaucoup d'échecs scolaires dans notre système scolaire et on a beaucoup de décrochage scolaire. Donc pour toutes ces raisons, la mixité sociale est quelque chose de fondamental. Maintenant, ce n'est pas la panacée, ce n'est pas la baguette magique. S'il y a de la mixité sociale, pas de pédagogie qui suive, pas d'organisation du système scolaire qui suive, etc., eh bien, on n'arrivera pas à suivre et à atteindre les objectifs opérationnels qu'on veut suivre à travers la mixité sociale, ça c'est certain. Donc mixité sociale, d'abord pour des raisons pédagogiques et aussi pour des raisons qui tiennent à, je vais dire, à un projet de société. Il est important que les gens vivent ensemble. Et souvent, je me dis, certains pourventent les ghettos et disent le repli communautaire, ça ne fonctionne pas, ça crée des dérives. C'est vrai, c'est absolument vrai. Mais en même temps, on ne peut pas, à mon sens, dénoncer du repli communautaire et ne pas se battre pour de la mixité sociale. Parce qu'alors là, il y a un gros problème, une grosse contradiction. Je souligne aussi le fait que notre système scolaire est un système scolaire public. Contrairement à la France, les écoles catholiques sont subventionnées par l'État et elles sont des écoles publiques. Donc on a très peu d'écoles dites privées et il me paraît vraiment important que l'école, financée par l'impôt, doivent aujourd'hui retourner vers une de ses missions premières, à savoir permettre une émancipation sociale, et on en est très loin. L'ascenseur social en l'État, il est bloqué, et l'école, au lieu de diminuer les inégalités, eh bien, elle en crée de nouvelles. Donc ça, c'est pour le pan mixité sociale. Je vais lier donc ce gros objectif que je viens d'expliquer, et objectif qui n'est pas d'ailleurs toujours mis en avant, même par les ministres en charge de l'éducation nationale. Hein. On en a de temps en temps, national, ce n'est pas juste, c'est l'éducation de la Fédération Wallonie-Bruxelles, puisque vous le savez, l'éducation est une matière qui est communautarisée. Donc ça, c'est important aussi de le redire. Et donc, certains ne portent pas cet objectif. À côté de cet objectif, il y a un objectif d'égalité, de transparence et de lutte contre l'arbitraire. Pourquoi ? Parce qu'on sait très bien que régulièrement à l'inscription, il y a des pratiques discriminatoires qui sont mises en œuvre, dans certaines écoles en tout cas. Et donc on a des familles qui vont dans des écoles, qui s'y rendent et qui étaient confrontées à l'idée que, eh bien voilà, il y avait une liste d'attente jusqu'en 2020 et donc l'école leur était inaccessible. Aujourd'hui, avec le décret inscription, qui ne régit que les inscriptions en première secondaire, ça, je tiens à le souligner, eh bien, il n'y a plus de liste d'attente. Donc, la procédure se veut transparente. On verra au fil de l'émission que c'est quand même un tout petit peu plus compliqué que ça, mais que le décret, perfectible certes, est quand même un mécanisme de régulation, et ça, c'est, à mon sens, très important. Donc voilà, j'ai essayé de planter le décor au niveau des grands objectifs et de répondre à la question de Morane.
À la journée suivante, est-ce que vous pouvez nous expliquer le fonctionnement du fameux formulaire unique qu'on doit rendre pour l'inscription et expliquer aussi ce qu'est l'ICEF ?
Ok. Alors l'ICEF, à mon sens, c'est la grande inconnue. ICEF, ça veut dire quoi ? Indice socio-économique faible de l'école primaire d'origine. Donc quand les parents, et c'était le cas, ils ont reçu leur formulaire unique, les parents des enfants qui sont en sixième primaire maintenant, ils ont dû recevoir au plus tard pour le 22 janvier le formulaire unique qui leur permet d'inscrire leur enfant en première secondaire. Hein. Et dans ce formulaire, il y a une toute petite rubrique. Il est indiqué ICEF sans le moindre mot d'explication et il est indiqué à côté oui ou non. Et donc si vous avez un ICEF, vous êtes prioritaire pour 20,04% des places à octroyer. Donc ça, c'est l'ICEF. Alors, pour le formulaire unique, effectivement, vous avez un formulaire. L'idée, c'est qu'avec ce formulaire, vous vous inscriviez dans l'école de votre premier choix. Un formulaire, pourquoi ? Pour ne plus faire de fil et pour qu'il n'y ait pas d'inscription multiple.
Merci. Et Eric, quand doit-on remettre le formulaire et à quel endroit ?
L'endroit, Chantal vient d'en parler, puisqu'il s'agit de remettre ce formulaire unique dans l'école du premier choix. Hein. Alors, ce qui est important, donc, ce sont les dates. Le dépôt du formulaire, c'est entre le 15 février et le 4 mars. Alors, donc, ce qu'il faut préciser, c'est qu'il est absolument inutile de se précipiter si on est dans cette période-là, puisque l'ordre chronologique, à ce moment-là, n'a pas d'importance. Donc, que je remette le formulaire le 15 février au matin, ou bien le 20 février, ou de toute façon avant le 4 mars, eh bien, je suis de toute façon dans les temps et ça n'influe pas sur le classement qui sera fait. Petit mot encore, donc moi j'encourage évidemment tout le monde à déposer le formulaire, enfin tout le monde qui est concerné à déposer ce formulaire durant cette période-là, entre le 15 février et le 4 mars. Parce qu'après le 4 mars, à partir du 5 mars et ce jusqu'au 24 avril, les inscriptions en première sont suspendues. Alors, elles reprennent après, à partir du 25 avril, si on a loupé donc la période, la première période. Mais attention, à partir du 25 avril, là, ce n'est plus, c'est l'ordre chronologique qui va compter. Ce n'est plus une période, effectivement, où on peut venir n'importe quand. Donc, à partir du 25 avril, c'est premier arrivé, premier servi. Donc, il faut vraiment s'inscrire entre le 15 février et le 4 mars. Voilà.
Merci beaucoup. Donc après toutes ces informations, on va écouter C'est quand qu'on va où de Renaud.
Je ne suis chopé 500 lignes, je ne dois pas parler en classe. Ras-le-bol de la discipline, il y en a marre, c'est dégueulasse. C'est même pas moi qui parlais, Moi je répondais à Arthur, qui me demandait en anglais comment s'écrit nos futurs. Si on est puni pour ça, alors je dis halte à tout. Explique-moi papa, c'est quand qu'on va où? C'est quand même un peu galère d'aller chaque jour au chagrin. Quand t'as tellement de gens sur terre qui vont pointer chez Fourien. Petit devoir à la maison, je fais ma semaine de 60 heures, non seulement pour pas un rond, mais en plus pour finir chômeur. Veulent me gaver comme une oie avec des matières indigestes. J'aurais oublié tout ça quand j'aurais appris tout le reste. Soulève un peu mon cartable, et lourd comme un cheval mort. 10 kilos d'indispensable, théorème de Pythagore. Si je dois m'avaler tout ça, alors je dis halte à tout. Explique-moi papa, c'est quand qu'on va où? L'essentiel à nous apprendre, c'est l'amour des livres qui fait que tu peux voyager de ta chambre autour de l'humanité. C'est l'amour de ton prochain, même si c'est un beau salaud. La haine, ça n'apporte rien, puis elle viendra bien assez tôt. Si on nous apprend pas ça, alors je dis halte à tout. Explique-moi papa, c'est quand qu'on va où? Quand je serai grande, je veux être heureuse, savoir dessiner un peu, savoir me servir d'une perceuse, savoir allumer un feu. Je voulais peut-être du violoncelle, avoir une belle écriture, pour écrire des mots rebelles, à faire tomber tous les murs. Si l'école permet pas ça, alors je dis halte à tout. Explique-moi papa, c'est quand qu'on va où? Tu dis que si les élections, ça changeait vraiment la vie. Il y a un bout de temps, mon colon, voter, ça serait interdit. Ben, si l'école, ça rendait les hommes libres et égaux, le gouvernement déciderait que c'est pas bon pour les marmots. Si tu penses un peu comme moi, alors dis halte à tout. Et maintenant, papa, c'est quand qu'on va où? Si tu penses un peu comme moi, alors dis halte à tout.
C'était C'est quand qu'on va où de Renaud. Poursuivons maintenant nos questions à propos du décret inscription. Eric, en dehors de l'ICEF, y a-t-il d'autres priorités et d'autres éléments importants à retenir?
Oui, donc l'ICEF, comme Chantal en a parlé, donc c'est disons le premier critère de vraiment de classement qui permet aux 20,4% des enfants sortis d'école en discrimination positive, donc ça veut dire à un indice socio-économique faible, de se retrouver donc dans le haut du classement, à raison de 20,4%. Maintenant, pour continuer le classement, et donc ce classement, en fait, ce qu'il faut d'abord dire, c'est que ce classement a une pertinence à partir du moment où on aura affaire à une école où la demande est plus forte que l'offre de place. Parce que si effectivement, si on a affaire à une école où le nombre de places est suffisant, ou c'est-à-dire plus petit ou égal au nombre, donc la demande est plus petite ou égale à l'offre de place, ben à ce moment-là, il n'est pas nécessaire d'effectuer les classements. C'est au cas où la demande est supérieure à l'offre de place, où tous ces critères de classement vont devoir jouer. Donc, il y a d'abord l'ICEF, et après, qu'est-ce qu'il y a comme autre critère? Il y a notamment le fait d'avoir un frère ou une sœur dans l'établissement, donc déjà dans l'établissement secondaire, ça confère une priorité. Le fait d'avoir les parents qui travaillent dans l'établissement, pas nécessairement comme prof d'ailleurs, hein, ça peut être comme personnel d'entretien, ça peut être comme éducateur, peu importe, mais donc le fait d'avoir des parents constitue aussi un critère de priorité. Il y a des cas tout à fait particuliers, comme par exemple un enfant qui a fait l'objet d'une décision de placement par le juge de la jeunesse. Bon, ça peut donner une priorité aussi. Et alors, le fait d'être en internat, donc si l'élève qui veut aller dans l'école va dans l'internat qui a un lien avec cette école, il peut bénéficier d'une priorité également. Alors enfin, après, je dirais, tous ces critères de classement pour départager ce qu'on appelle, je dirais, ceux qui sont les surnuméraires, à ce moment-là, donc ceux qui viennent en plus de la capacité qu'a l'école en termes de place, on va faire jouer des critères géographiques aussi. Alors là, bon, sans vouloir trop rentrer dans les détails, parce que ça devient vraiment trop technique, mais bon, pour dire un mot, qu'est-ce que ça veut dire les critères géographiques ? Ça veut dire la distance entre l'école primaire et le domicile, la distance entre l'école secondaire et le domicile, et la distance entre l'école primaire et l'école secondaire. Plus on va tenir compte d'un autre facteur, qui est le fait que sur la commune en question, il y ait ou non des écoles donc, secondaires, d'autres réseaux présents, quoi, ou pas. Donc voilà, ça devient assez complexe, mais je pense donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, il y a des critères objectifs qui sont mis en place pour pouvoir établir un classement en ordre utile, quoi. Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Maintenant, une chose dont on n'a pas parlé aussi et qui est importante par rapport au dépôt du formulaire unique dans l'école du premier choix, c'est qu'il ne faut pas oublier de demander un accusé de réception. Donc une fois que le formulaire unique a été déposé, pour avoir la preuve effectivement qu'on a bien été dans cette école déposer sa demande, il y a un accusé de réception qui doit être délivré par l'école, donc par la direction de l'école. Voilà.
Merci. Chantal, Infojeun a-t-il souvent pointé des irrégularités dans l'application du décret inscription ?
Oui. Mais avant de parler de ces irrégularités, avant d'y venir, je voudrais rappeler que la campagne Marguerite bat son plein. Alors qu'est-ce que la campagne Marguerite en deux mots ? C'est une campagne où nous allons sur les marchés avec le bus du délégué général aux droits de l'enfant pour répondre aux questions des populations. Et donc c'est toute une campagne sur le droit scolaire, mais c'est une campagne aussi où on explique le décret inscription. Donc on est proactif, on va aider à ce que certains milieux puissent s'approprier le décret et se sentent légitimes à le faire appliquer. Alors, demain, nous serons sur le marché de Molenbeek. Vendredi, nous serons sur le marché de Skarbeek. Et vendredi dans l'après-midi, nous aurons également la présence du bus rue Malibran. Voilà, ça c'est des rendez-vous qui peuvent être intéressants pour des personnes qui souhaitent avoir de plus amples informations. Alors, pour en revenir à la question que Morane me pose, les irrégularités par rapport au décret. Alors, nous, par expérience, nous savons qu'il y a énormément de choses qui peuvent se jouer dans les moments de rencontre ou voire de contact informel avec l'école, quand l'école ne joue pas le jeu, bien entendu. Et donc, on peut constater, par exemple, que certains parents ont du mal à passer le cap du secrétariat, qui n'arrivent pas à avoir, le cas échéant, une rencontre avec la direction, ou que la rencontre avec la direction peut mal se passer. Je m'explique. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, pour s'inscrire, il faut faire une et une seule chose, c'est déposer un formulaire unique. Mais il y a des écoles qui disent, il faut amener le bulletin. Il faut que vous soyez accompagné de votre enfant. Et dans certaines écoles, ben, on fait faire un test à l'enfant ou bien on regarde le bulletin. Et puis, d'une manière paternaliste ou pas, on dit aux parents, « Ah, mais vous savez, avec de tels points, ça va être difficile de suivre chez nous. » Et donc, on décourage à l'inscription. Ou bien encore, on dit, « écoutez, voilà, il y a des voyages scolaires, ils sont onéreux. Est-ce que vous allez pouvoir consentir cet effort financier, etc. ?» Donc, ce sont toutes des pratiques dissuasives qu'on a mis en lumière à deux reprises dans des actions un petit peu coup de poing, à travers une caméra cachée que vous pouvez retrouver sur notre site, où on voit qu'effectivement un public de milieu populaire se rend pour s'inscrire dans une école dite réputée et qu'on leur demande une lettre de motivation et qu'on ne prend pas leur formulaire unique et qu'à contrario, un papa qui est très bien habillé, qui est en costume et qui dit que sa fille est première de classe, se voit offrir une place immédiatement dans l'école. Enfin, immédiatement, en tout cas, on prend son formulaire. Bon, ça c'est une chose. On a fait aussi une autre action avec des comédiens et avec notre égérie, qui est Marie Dounia. Et donc on est allé faire une inscription fictive, on a été entouré par les médias, et on a pu montrer que dans cette école, il y avait beaucoup de pratiques de sélectivité, et que notamment, à côté du formulaire unique qui était d'ailleurs présenté comme un formulaire purement administratif, eh bien on faisait remplir un espèce de curriculum vitae aux parents. Et on les obligeait aussi à répondre à des questions du genre « Est-ce que vous êtes employé, ouvrier, etc. ?» Toutes questions qui n'ont rien à voir, bien évidemment, avec la procédure d'inscription. Donc ça, c'est toutes des manœuvres dilatoires que nous avons pointées. Dans ces manœuvres, également dans les frais, on avait pu constater qu'une école, eh bien, elle exigeait le paiement de frais pour aller à la messe et le paiement de frais pour le chauffage à la cantine, ce qui n'est pas possible tout simplement. Voilà, donc soyez clairs et si vous rencontrez des difficultés à l'inscription, faites-vous aider ou faites-vous accompagner, mais n'acceptez pas des conditions qui ne sont pas les conditions que fixe la loi.
Et vous, Eric, voyez-vous d'autres irrégularités ?
Et moi, je vais ajouter simplement les choses qu'il ne faut pas faire pour ne pas se retrouver dans l'irrégularité. Donc, il y a notamment deux choses, c'est-à-dire qu'il ne faut pas, je parlais du critère géographique tout à l'heure, il ne faut pas, parce que bon, malheureusement, ça a déjà été constaté par la communauté française, donner une fausse adresse dans l'espoir de pouvoir bénéficier d'un critère géographique plus favorable, parce que là, dans ce cas-là, l'inscription va être purement et simplement annulée. Il ne faut pas également déposer plusieurs formulaires à plusieurs endroits, puisque comme on le disait tout à l'heure, il n'y a qu'à l'école du premier choix qu'un seul formulaire peut être déposé. Quelqu'un qui aurait déposé plusieurs formulaires verrait toutes ses demandes automatiquement annulées. Et puis, il y a un autre élément, bon, je parlais de fausses adresses, mais ici, c'est encore autre chose, c'est ce qu'on a constaté qu'il y avait effectivement, pour pouvoir contourner en quelque sorte ces critères, certains, mais évidemment, il faut pouvoir en avoir les moyens, se font domicilier juste avant l'inscription à un autre endroit que dans le lieu familial, c'est-à-dire soit chez d'autres membres de la famille, soit chez des amis, parce qu'ils pourraient également bénéficier d'un critère géographique à ce moment-là plus favorable. Effectivement, là, c'est beaucoup plus difficile à vérifier, mais en même temps, ça montre aussi un petit peu la limite de ce critère géographique, dans la mesure où c'est source également de discrimination, dans la mesure où certains publics ont plus de capacité à pouvoir se domicilier ailleurs et à changer de domicile que d'autres publics aussi. Donc là, on est vraiment dans une pratique frauduleuse, mais qu'il est difficile souvent d'objectiver, mais qui entraîne effectivement, qui renforce encore une fois de nouveau des inégalités. D'où le fait que ce critère géographique n'est sans doute pas un critère vraiment très très approprié, quoi.
Merci pour ces informations. On va faire une nouvelle petite pause musicale et nous allons écouter Les enfants, foutez-leur la paix de Pierre Perrin.
Il sait faire quelque chose. Un enfant qui vole des confitures, c'est un gosse qui a besoin de glucose. Un enfant qui a brisé une soucoupe, ça vous prouve qu'il sait tenir un marteau. Un enfant qui ne mange pas sa soupe, c'est son droit s'il préfère les gâteaux. Les enfants, foutez-leur la paix. Croyez-moi, laissez-leur faire tout ce qui leur plaît. Les enfants, moi je les aime bien, quand ils n'écoutent rien et qui mettent la panique chez les voisins. Un enfant c'est beau, c'est merveilleux, c'est gentil et c'est si naturel. Quand il a des nouilles dans les cheveux, c'est qu'il a descendu la poubelle. Un enfant enfant qui sait pas l'alphabet. C'est un gosse qui a besoin de vacances. Un enfant qui avale un porte-monnaie, c'est parce qu'il fait une crise de croissance. Les enfants, foutez-leur la paix. Croyez-moi, laissez-leur faire tout ce qui leur plaît. Les enfants, moi je les aime bien, quand ils n'écoutent rien et qu'ils mettent la panique chez les voisins. Un enfant qui chope la varicelle, c'est à cause du triangle isocèle. Un enfant qui n'aime pas les radis, en voudra si ça lui est interdit. Un enfant qui met le coude sur la table, ça vaut mieux que dans l'œil de sa maman. Un enfant qui a des notes minables, c'est parce qu'il s'est trompé en copiant. Les enfants, foutez-leur la paix. Croyez-moi, laissez-leur faire tout ce qui leur plaît. Les enfants, moi je les aime bien, quand ils n'écoutent rien et qu'ils mettent la panique chez les voisins. La la la.
C'était Pierre Perret avec sa chanson « Les enfants, foutez-leur la paix ». Nous finirons cette émission par cette question. Le décret est souvent critiqué. Chantal, qu'en pensez-vous ?
Ah, qu'est-ce que j'en pense et pourquoi il a été critiqué ? Mais, ok, en fait, il y a, à mon sens, des critiques qui sont fondées et des critiques qui ne sont pas fondées. Je vais y venir. Alors, on a beaucoup entendu les classes moyennes, les classes favorisées, décrier le décret, à mon sens, parce que ils se sont rendus compte qu'une partie des populations qui, au préalable, ne discutaient pas les places qui étaient octroyées dans les écoles, allaient le faire. Et donc, il y a eu une espèce de compétition entre les parents. On peut le déplorer, mais c'est le résultat d'un système scolaire où les établissements eux-mêmes sont en compétition. On est dans un système scolaire dit de quasi-marché. Alors je m'explique, hein, ça peut paraître très étrange que je parle comme ça, mais en réalité, les écoles, elles essayent d'avoir plus ou moins tel ou tel public, elles tablent sur leur offre scolaire, avoir ou non de la remédiation, avoir du général ou avoir du technique, du professionnel, etc. Tout ça fait qu'on n'attire pas le même public. Et donc, effectivement, certains parents qui n'en avaient pas l'habitude, à travers le décret inscription, ont commencé à essayer d'avoir des place dans les écoles dites réputées, ce qui explique en partie les critiques des milieux les plus favorisés. Par contre, il y a une critique qui n'est jamais amenée et qui me semble, pour ma part, tout à fait fondée, c'est celle de dire que ce décret, il ne concerne que l'inscription en première commune et pas l'inscription en première différenciée. Alors, il faut que je vous explique. On va en première commune quand on a son CEB, quand on a réussi toutes ses primaires. On va en première différenciée si, à l'issue de ses primaires, on n'a pas obtenu son CEB. Et pour un décret qui se fixe comme objectif de créer de la mixité sociale, ne s'adresser que, ne réguler que les inscriptions en première commune, à mon sens, c'est une aberration. Donc ça, c'est vraiment, et c'est une critique que vous n'allez quasi jamais entendre. Hein. C'est vraiment parce que, justement, elle touche les milieux populaires. C'est eux qu'on retrouve majoritairement en première différenciée. Et comme ils sont peu entendus dans les médias, eh bien voilà, cette critique n'est pas portée. Or, je la trouve totalement fondée. Alors, vous avez peut-être entendu aussi que la ministre avait l'intention de rajouter un critère. Donc, on a parlé des critères géographiques et des distorsions que ça pouvait amener. Ok, d'accord. Peut-être qu'il faut corriger ces critères. En attendant, la ministre souhaite à nouveau implémenter des conventions pédagogiques. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est une convention qui lie des écoles primaires et des écoles secondaires et qui donnerait, donc avant on parlait d'adossement, qui donnerait une priorité aux enfants qui viennent d'un un établissement primaire qui est conventionné avec une école secondaire pour avoir d'office sa place dans cette école-là. Le problème, c'est que alors, la sélection, elle se fera dès l'école primaire. Et donc, il y aura déjà, comment dirais-je, la situation sera déjà un petit peu cadenassée à partir du moment où on voudra s'inscrire dans le secondaire. Donc nous pensons vraiment que, à nouveau, avoir un critère comme celui des conventions pédagogiques, c'est se priver de la création de plus de mixité sociale.
Et vous, Eric, que pensez-vous à ce sujet ?
Eh bien, donc, par rapport à cette question, moi, j'aborderai les choses sous le plan donc, de la mixité sociale, puisque la mixité sociale est quand même un des objectifs majeurs du décret inscription. Alors, on a souvent entendu, effectivement, des critiques à propos du fait que, finalement, au bout de quelques années, il n'y aurait pas suffisamment de mixité sociale qui aurait été créée suite à la mise en application du décret. Alors, première chose, et ça, Inforjeun Laeken, depuis le tout début, avec le collectif Marguerite, avait attiré l'attention là-dessus. Donc, c'est-à-dire depuis vraiment la première application du décret, c'est-à-dire à partir de l'année 2007-2008, c'est que si ce décret lui-même n'était pas complété par d'autres mesures visant à favoriser la mixité sociale et à mettre en place davantage d'égalité à l'intérieur du système, eh bien, c'est vrai que le décret inscription, à lui seul, allait avoir des effets limités. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que ce décret n'introduit de la mixité finalement qu'à la marge, c'est-à-dire à l'entrée de l'enseignement secondaire. Or, le collectif Marguerite et d'autres associations également qui militent en faveur, je dirais, de plus d'égalité et de plus de mixité sociale et en faveur d'un changement à l'intérieur du système, disent aussi que... on aurait bien fait, finalement, de réguler les inscriptions, puisque bon, l'enjeu, c'est de réguler, beaucoup plus en amont, ça veut dire déjà dès le fondamental, c'est-à-dire dès l'enseignement primaire, le début de l'enseignement primaire, voire déjà dès le maternel, parce que les problèmes commencent déjà à ce moment-là. Et donc, par rapport à cet élément de mixité sociale, on a effectivement un problème actuellement parce que le décret lui-même est finalement le seul dispositif de régulation que l'on a en communauté française dans l'enseignement et qu'il n'a pas été complété par d'autres mesures. Donc d'autres mesures, ça aurait été par exemple une régulation plus en amont, mais aussi... par exemple, la mise en place d'un véritable tronc commun jusqu'à l'âge de 16 ans. C'est quoi un véritable tronc commun jusqu'à l'âge de 16 ans ? Ben, c'est d'avoir à la fois non seulement des cours généraux, mais aussi des cours polytechniques, mais pas uniquement pour un public, mais pour tout le monde. C'est-à-dire, quand on dit polytechnique, c'est l'acquisition de savoir-faire, mais de savoir-faire qui, à ce moment-là, ne sont pas encore professionnalisants, mais qui constituent un lot de matières communes avec les cours généraux, qui permettent alors à tout le monde d'avoir, je dirais, un bagage semblable jusqu'à l'âge de 16 ans. Et les spécialisations en termes vraiment de professionnalisation, ne viendrait qu'après 16 ans au moins. Donc ça, c'est par exemple, cet exemple du tronc commun, ce serait une manière de compléter le dispositif, mais bon, pour le moment, on se rend compte que ça n'est pas encore à l'ordre du jour, quoi. Donc voilà, mais ceci dit, je pense que plus que jamais, il faut continuer la régulation. Pourquoi ? Parce que, en fait, et ça, on l'a un peu souligné tout à l'heure, mais je crois qu'il faut l'accentuer encore, c'est que finalement, notre système scolaire est avant tout un marché scolaire, ou un quasi-marché, comme certains disent, quoi. Et que ce quasi-marché, pour le rendre effectivement plus égalitaire, ben, il faut davantage réguler. Et ça, c'est pas simplement, je dirais comme ça, une idée en l'air. On peut
constater et vérifier l'effectivité de cette mesure de la régulation, si on s'en réfère aux statistiques, notamment du PISA, donc des statistiques OCDE, où l'on peut voir clairement qu'au plus on a affaire à un système régulé, au plus les écarts donc, qui marquent les inégalités sont faibles. Au plus on a affaire à un système très dérégulé, comme le nôtre par exemple, en communauté française, on n'est pas tout seul, mais bon, on est quand même parmi les mieux placés, si j'ose dire, en termes de dérégulation, eh bien, on a un système très inégalitaire, quoi. D'où l'importance, effectivement, de maintenir l'objectif de mixité sociale étant effectivement une manière d'accéder à davantage d'égalité et donc de maintenir effectivement le décret inscription en améliorant sans doute des éléments techniques et en essayant de le perfectionner. Mais voilà quoi, il y a vraiment un enjeu très très important auquel ce décret permet de donner prise, quoi. Donc voilà.
Merci. Oui. Chantal, vous avez quelque chose à rajouter ?
Oui, je voudrais encore insister sur certains points. Le premier, c'est, à juste titre, certains nous disent à l'évaluation, le décret ne crée pas suffisamment de mixité sociale. Je ne vais pas m'étendre là-dessus très longuement. Eric a déjà très très bien expliqué le problème, mais je voudrais quand même préciser qu'il n'est pas politiquement correct de se déclarer contre la mixité sociale. Or, malheureusement, en l'état, il y a toujours des tenants de certaines écoles qui ne souhaitent pas qu'il y ait plus de mixité sociale. Et donc, on ne peut pas évaluer le décret uniquement à travers les mécanismes que propose le décret, mais il faut aussi tenir compte de la façon dont il est appliqué et des irrégularités qui sont commises, ou encore des discours qui, je pense à des journées portes ouvertes par exemple, des discours qui peuvent être tenus pendant des journées portes ouvertes qui visent clairement à décourager certains publics de s'inscrire dans une école. Hein. Et ça peut prendre une forme qui a l'air bénigne, on peut dire il faut partager nos valeurs. Mais une fois qu'on voit toutes les valeurs qui sont mises sur la table, eh bien, on peut voir effectivement que ça sélectionne le public. Ça, c'était une première chose. Dire aussi que la situation n'est pas la même dans le nord et dans le sud de Bruxelles. Il y a des endroits où il y a plus de tensions dans le nord de Bruxelles parce qu'on manque réellement de place. Et donc, dans certaines écoles, le fait d'avoir ce fameux indice socio-économique faible ne fait plus la différence. C'est-à-dire qu'il y a plus de 20% des enfants qui ont cet indice socio-économique faible. Et aujourd'hui, il y a deux propositions qui sont sur la table et qui nous semblent importantes. C'est d'une part que chaque famille ait son indice socio-économique et donc qu'on ne procède plus par établissement, puisque ces statistiques sont datées et que donc il y a certains établissements qui sont encore enregistrés comme ayant un ICEF faible aujourd'hui et ça ne correspond plus à la réalité. Donc ça doit pouvoir être modifié, ça c'est une première chose. Et puis aussi avoir une situation de double quota. Parce que c'est vrai, il y a des écoles qui aujourd'hui, qui n'avaient pas 20% d'enfants de milieu populaire et qui aujourd'hui ont 60% d'enfants de milieu populaire. Et là, on n'a pas créé de la mixité sociale, on recrée des ghettos. Donc il faut avoir une situation de double quota. Je rappelle quand même qu'à Bruxelles, bon ben, 2 enfants sur 5 sont pauvres et 40% de la population, on va faire, on va dire ça de manière simple, bénéficie en gros d'un ICEF. Donc c'est quand même tout à fait conséquent. Et donc je l'ai dit, il y a une césure entre le nord et le sud. La situation au sud de Bruxelles est assez différente puisqu'on y voit beaucoup d'écoles avec un public plus favorisé purement et simplement. Alors, deux petits points encore que je souhaite aborder avec vous. On a déjà connu, donc quand vous avez inscrit votre enfant, pour confirmer l'inscription, vous avez besoin du CEB. Eh bien, il y a eu malheureusement quelques incidents et certaines écoles n'ont pas accepté de délivrer le CEB à des parents au motif qu'ils n'avaient pas payé toutes leurs factures. Cette pratique est parfaitement illégale. Si vous êtes confronté à ce genre de situation, faites-vous aider. Et enfin, je voulais attirer aussi votre attention sur le fait que dans certaines écoles qui ne souhaitent pas plus de mixité sociale, eh bien parfois, ce qui se passe, et on a vu que les chiffres ont augmenté, c'est qu'on exclut plus d'enfants dans le premier degré. Donc en première ou en deuxième, on voit que certains enfants, pour des motifs qui ne sont pas avérés ou qui sont relativement bénins, se voient exclure de l'école de manière à ce que ce public qu'on ne souhaitait pas accueillir se retrouve dans un autre établissement. Donc il y a aussi toute la problématique de la qualité d'accueil à partir du moment où on est inscrit, et ça me paraît aussi fondamental.
Merci à vous Eric et à vous Chantal pour toutes ces informations utiles. Je tiens aussi à remercier Radio Panique pour leur studio et la régie, mais aussi remercier la Fédération Wallonie-Bruxelles. Vous pouvez trouver l'émission sur le site d'InforJeune Laeken, www.inforjeune.eu. Pour clôturer cette émission, je vous propose d'écouter Sacré Charlemagne de France Gall. Merci pour votre écoute et à bientôt.
Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école?
Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école?
C'est ce Sacré Charlemagne. De nous laisser dans la vie que les dimanches, les jeudis.
De nous laisser dans la vie que les dimanches, les jeudis.
C'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. Ce fils de Pépin le Bref nous donne beaucoup d'ennui. Et nous avons sans grief contre lui. Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école?
Qui a eu cette idée folle? De mathématiques,
que deux,
travail,
sacré Charlemagne. Il aurait dû caresser longtemps sa barbe fleurie.
Il aurait dû caresser longtemps sa barbe fleurie. Oh, oh,
sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. Au lieu de nous ennuyer avec la géographie,
au lieu de
il faut apprendre à compter et faire des tas de dictées.
Il faut apprendre à compter et faire des tas de dictées.
Oh, oh, sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. Participe passé. 4 et 4 font 8.
4 et 4 font 8.
Leçon de français. De mathématiques.
Que deux.
Travail.
Sacré.